Donc, on va reprendre avec continuer pour ce problème de l'emploi des docteurs qu'on a en organisant une discussion sous forme d'une table ronde. Donc, participe Barthélémy Durette, hein, qui est docteur en sciences cognitives et qui est devenu chef de projet Ad Hoc Talent Management, qui est un cabinet spécialisé dans le conseil en recrutement de docteurs. Donc, il pourra nous expliquer un peu plus ce que c'est que ce cabinet. Et en particulier, si j'ai bien compris, Ad Hoc Talent Management se charge d'une enquête sur le devenir des docteurs. Enfin, il nous expliquerait, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, pour le compte d'un certain nombre d'universités en Ile-de-France. Deuxième intervenante est Emmanuel Ebel-Jost, qui est docteur en art, mais néanmoins entrepreneur, et membre de l'ANDES, qui est l'Association nationale des docteurs, et qui donc est une association qui agit justement sur ces questions de l'emploi, de l'employabilité et de l'emploi des docteurs, et qui nous en dira plus sur les actions de cette association. Et puis, alors malheureusement, Henri-Édouard Audier, qui a travaillé sur cette question en tant que syndicaliste, hein, qui est chercheur émérite maintenant et au CNRS et membre du SNCS, FSU, et n'a pas pu venir parce qu'il pour des raisons de santé. Et donc, Christine Eisenbach, qui est non seulement membre du conseil scientifique et du centre d'Alembert et membre du comité de pilotage du colloque, est aussi également membre du SNCS, syndicaliste, et donc a accepté de le remplacer. Donc, chacun des intervenants va faire une petite présentation de 10 minutes, un petit peu, sur leurs angles spécifiques. Et puis ensuite, on aura donc un échange avec la salle, avec des allers-retours entre les intervenants et la salle. Et je pense que les points qu'il faudrait qu'on aborde, c'est d'une part le constat, hein, je pense, sur lequel on va être unanime, sur, en tout cas en France. Alors, je ne sais pas si on pourra avoir peut-être des comparatifs un peu peut-être internationaux, s'il y a des données. Mais les difficultés d'employabilité, enfin des docteurs en dehors de la recherche académique, sachant que la recherche académique est loin d'être capable d'absorber, surtout dans la période actuelle, l'ensemble des docteurs qui sont formés en France. Et puis, au-delà du constat, d'essayer d'en analyser les causes de cette situation. On a déjà un peu évoqué tout à l'heure une cause qui est souvent mis en avant, qui est la dualité, hein, la compétition, enfin la dualité du système université grandes écoles et la dévalorisation de l'université par rapport aux grandes écoles au sein du monde de l'entreprise. Il y a peut-être d'autres causes. Et puis voir aussi des solutions possibles. On évoquera, je pense, aussi la question de l'emploi des docteurs dans la haute fonction publique. Voilà. Je donne la parole. Alors, donc on a dit Barthélémy d'abord, ensuite Emmanuel et non, ou Christine d'abord, ensuite Christine et ensuite Emmanuel. Voilà. Ah oui, il faut que je vous. Pardon, j'ai éteint.
Donc merci pour cette invitation. Donc effectivement, je m'appelle Barthélémy Durette, je suis docteur en sciences cognitives de l'Université de Grenoble. J'ai un début de parcours académique, je suis allé en postdoc donc en Allemagne pendant un an et ensuite donc j'ai été recruté au sein du cabinet Ad Hoc Talent Management. Je vais vous expliquer un petit peu plus ce qu'on fait dans cette entreprise en tant que chef de projet recherche-développement et puis maintenant responsable du pôle recherche-développement puisqu'on a voilà, notre équipe s'est un petit peu agrandie. Alors, donc, la place des docteurs dans la société, l'entreprise et ailleurs, je ne sais pas si je vais parler de la question de la place des docteurs dans la société en général, mais effectivement, moi, je vais plutôt me concentrer sur la question de son marché de l'emploi, mais par contre, pas seulement le marché de l'emploi de l'entreprise, même si c'est nous, c'est notre cœur de métier, mais on travaille aussi beaucoup avec l'académique, on fait des formations, et donc, je dirais, sans plébisciter aucune poursuite de carrière particulière, voilà, sans plébisciter aucune poursuivre des carrières particulières. Alors nous, en fait, le cabinet Adopt Talent Management, voilà, simplement la question qu'on va poser ici, c'est la relation qui existe, et c'est pour ça qu'on parle d'emploi, entre une formation et une expérience professionnelle et un marché de l'emploi. Voilà, sans connotation morale particulière. Alors Adopt Talent Management, c'est un cabinet européen qui est spécialisé dans la gestion des carrières des docteurs. On a fait le constat, il y a donc maintenant 6 ans, que les entreprises donc avaient des besoins en personnel hautement qualifié et que les docteurs avaient tout à fait les compétences, ou en tout cas c'était, je dirais, l'image qu'on avait et le pari qu'on a fait pour répondre à ces besoins. Et donc le cabinet s'est développé autour de cette idée de faciliter, promouvoir la poursuite de carrière des docteurs dans les entreprises. Alors la première initiative par rapport à ça, ça a été de former le cabinet de recrutement. C'est notre cœur de métier, donc des consultants en recrutement qui travaillent pour des entreprises ou des associations. Il ne faut pas oublier tout le secteur parapublic qui est aussi intéressé par les profils de docteurs. Et donc voilà, avec cette tâche de trouver les docteurs. Alors voilà, il faut savoir que les entreprises ne sont pas forcément réticentes à recruter des docteurs, mais la plupart du temps, elles ont des difficultés à savoir où les trouver et comment les évaluer. Et c'est à ça, je dirais, à ce besoin principal qu'on a répondu dans un premier temps. Ensuite, effectivement, suite à des demandes des universités, puisqu'on était à l'interface avec l'ensemble du marché de l'emploi et peut-être des parties du marché de l'emploi qu'elles connaissaient moins, bien, on a été amené à créer le pôle formation, qui propose des formations donc pour les docteurs, pour les doctorants principalement, mais aussi les docteurs en début de carrière, les postdocs et aussi les entreprises. Et puis pour terminer, le petit dernier qui date quand même maintenant de 2011, le pôle recherche-développement, qui s'est créé donc autour de l'idée de collecter des données vraiment sur l'emploi des docteurs pour promouvoir leur carrière. Et puis donc, on a aussi également donc deux filiales, donc Adoc Métis à Strasbourg, donc qui est représentée par Emmanuel, et puis une filiale qui est en train de se créer au Canada. Alors je vais vous présenter ça selon deux axes, 3 minutes chacun. En fait, nous, la question qu'on s'est posée, ou le point de départ duquel on est parti, c'est que pour étudier cette relation entre cette formation et expérience professionnelle et le marché de l'emploi, on allait se baser sur le seul terrain commun qui nous paraissait exister entre ces deux choses, à savoir les compétences. Et donc la première étude qu'on a faite, qui a initié les travaux du pôle R&D, c'était une étude sur les compétences qui posait la question de savoir si, alors d'une manière assez ambitieuse et générale, les compétences développées par les docteurs répondaient aux besoins du marché de l'emploi. Et encore une fois, quand je dis marché de l'emploi, je ne vise pas un secteur en particulier. Et donc, dans quelle mesure, voilà, il y avait cette adéquation, poser cette question de l'adéquation. Donc, c'est une enquête qui a mobilisé près de 5 000 participants et qui a été réalisée en collaboration avec plus de 30 partenaires. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur la méthodologie, comment ça a été créé, etc. Mais voilà, vous montrer sans doute le résultat principal ou la manière dont on le représente. On a appelé ça l'arbre des compétences et des métiers. Donc les racines de cet arbre sont les compétences qui ont été mentionnées par les docteurs. Et les métiers, pardon, les feuilles de cet arbre sont les différents métiers où on a que les docteurs occupent, effectivement, ceux qui ont répondu à l'enquête. Ce que vous pouvez constater, c'est une variété de compétences. On a constitué un référentiel de compétences synthétiques qui fait quand même 111 compétences. Et puis, donc un panel de métiers très riche, très varié. Et bien sûr, pas seulement dans la recherche, enseignement supérieur, recherche, recherche académique, mais aussi dans d'autres secteurs comme le conseil, comme la production, l'informatique, les postes de management, etc. Donc, un premier constat sur cette variété. Et puis donc simplement pour poser cette question de l'adéquation, essayer de mettre en relation, encore une fois, je ne vais pas m'appesantir, les compétences qui sont demandées par les recruteurs et les compétences qui sont attendues par les docteurs. Et pour ça, on obtient une corrélation qui est, je dirais, meilleure que ce qui est présenté visuellement dans la littérature et que ce qu'on pourrait imaginer, je dirais, au travers du discours qui est voilà, le plus commun sur le doctorat. Donc je dirais un premier constat un petit peu pas contre-intuitif, mais dirons inhabituel par rapport à ce qu'on pourrait entendre sur le doctorat en général, et qui s'est confirmé finalement par le développement de notre entreprise, puisque ça fait 6 ans qu'on existe, donc c'est quand même relativement jeune, même si on commence, voilà, on va bientôt souffler nos 7 bougies, et on travaille déjà avec plus de 150 entreprises, donc on n'a pas vraiment eu de difficulté à trouver des entreprises intéressées par les profils de docteurs ou des associations, etc. Et donc maintenant, je vais rentrer dans le deuxième volet de ces activités. En fait, donc, à la suite de ce projet compétences, on nous a demandé finalement on nous a proposé de mener une enquête à l'échelle de l'Île-de-France. Ça a été initié par ParisTech, et puis ensuite, il y a l'UPMC qui nous a rejoint. Ensuite, Paris-Est, puis plus récemment, Paris-Sud, Sorbonne-Paris-Cité, l'École Polytechnique et Télécom ParisTech. Pour réaliser une enquête commune, l'objectif étant justement d'avoir des données agrégées au niveau de l'Île-de-France, de bonne qualité, avec un questionnaire commun, et puis de participer aussi de manière commune à l'analyse. Ça, c'est un point qui est important, c'est que vous avez à la table du comité de pilotage, donc ce n'est pas l'enquête ad hoc, c'est pour ça que je vous disais, parce que c'est souvent on fait un petit peu l'amalgame. Nous, on fait l'analyse des données, on s'occupe des aspects techniques, mais on est aussi partie prenante dans le comité de pilotage, au même titre que les universités. Et ce qui vraiment compte dans ce projet, c'est son caractère multipartenarial. Alors ce projet, il existe maintenant depuis 3 ans, et on accumule des données sur les cohortes de docteurs, donc à 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, je vais simplement vous montrer quelques résultats significatifs à 1 an. Cette année, on va avoir notre première cohorte à 3 ans, donc il y a des choses qui vont sans doute sortir. Et j'ai beaucoup apprécié la slide qu'on nous a montrée avec les différentes évolutions. Je pense qu'on va essayer de s'inspirer de ce genre d'approche pour analyser nos données, je trouve ça très très intéressant. Alors à 1 an, d'abord un taux d'emploi de 82%. Alors ça peut paraître faible, mais en fait à 1 an c'est tout à fait honorable, compte tenu d'ailleurs des résultats des autres populations. Et puis sachant par ailleurs que la moitié de ces docteurs avaient obtenu leur emploi moins de 4 mois, avaient signé leur emploi avant la soutenance. Et on est à, je crois, 88% de ces 82% à 4 mois. Donc il y a vraiment une fluidité, un accès rapide, je dirais, à l'emploi suivant. 1% donc ont créé leur entreprise, c'est compté dans les 82% en emploi. Il y a bien sûr des disparités en fonction des domaines de recherche, et je vous inviterai pour ça à aller voir. On a fait des séparations en fonction des domaines de recherche et d'autres paramètres. Mais globalement, voilà, un taux d'emploi qui est tout à fait honorable. Encore une fois, à 1 an, ça évolue bien sûr après sur la carrière. On a ce type de répartition entre, je dirais, les 3 grands axes, les 3 grandes directions de carrière. Donc l'enseignement supérieur et la recherche pour 58% d'entre eux, la recherche-développement en entreprise pour 21% d'entre eux, et enfin 21% d'entre eux qui vont dans d'autres secteurs. Alors ça peut être l'administration et le secteur public, ou ça peut être souvent en entreprise le secteur du conseil, ou encore le support, la coordination aussi au niveau dans les entreprises, dans les pôles de compétitivité, etc. Souvent, c'est dans des environnements innovants. Donc, c'est aussi un point sur, puisqu'on parle de la place du docteur dans la société, le docteur, il est aussi formé à l'environnement de l'innovation et de la recherche. Et ça peut être ça qui l'intéresse. C'est-à-dire qu'on parlait de certains docteurs en LSHS au moment de faire leur doctorat, donc avant de faire le doctorat, ne plébiscitaient pas cette poursuite de carrière, et puis qui finalement semblaient, au moment de faire le doctorat, plébisciter ce type de carrière. Mais il y a des effets inverses aussi, des gens qui commencent un doctorat, qui se rendent compte que la recherche ne les intéresse absolument pas, mais qu'en revanche, l'environnement les intéresse, et pour ça, il y a aussi beaucoup d'opportunités. Et ça, c'est des choses qui restent stables, en tout cas qui sont restées stables en 2013-2014, et je le saurai bientôt si ça reste. Je sais que c'est resté plus ou moins stable en 2015. En avant-première. On parle de la place des docteurs sur le marché de l'emploi, dans la société, voilà. Leur place géographique aussi, ça c'est un point important. Hein. La carrière des docteurs est fondamentalement mobile. Alors ça interroge aussi leur place sans doute dans les interactions, dans les différents pays, etc. Avec donc voilà la répartition, environ 60% de docteurs qui restent en France, 40% qui travaillent ensuite à l'étranger. On parlait tout à l'heure des compétences. Sans donner le détail, on a regardé justement qu'est-ce qui finalement, encore une fois pour faire la relation entre cette expérience, formation et le marché de l'emploi. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a un lien entre ce qu'ils ont fait et la suite? Et vous voyez que ce qui arrive en tête, ce sont les compétences acquises durant le doctorat qu'ils vont plébisciter. Alors, je crois que c'est 96% et 95% dans le secteur privé comme dans le secteur public, donc pour leur futur emploi. Et puis je vais terminer par la question du projet et des satisfactions. Alors bon, la satisfaction, globalement, je crois que c'est 79%. Ça varie, et surtout, ce qui nous a intéressé, c'est de se demander pourquoi ça variait. Et on s'est aperçu, en regardant pourquoi ça avait un petit peu varié d'une année à l'autre, que c'était lié au fait d'avoir défini un projet professionnel. Et en fait, les docteurs qui ont défini un projet professionnel au moment de la soutenance ont significativement plus de chances d'être très satisfaits de leur situation professionnelle. Et donc ça interroge ça plus généralement justement, la question de la représentation qu'ont les docteurs par rapport à leur rôle dans la société, qui se définit en partie notamment par leur projet. Et alors ce que vous voyez là, cette espèce de graphique pas encore tout à fait lisible, je sais, on essaie de travailler sur une version encore mieux, mais c'est un graphique qui représente en fait la relation qui existe entre la représentation qu'ils ont de leur poursuite de carrière, donc leur projet. C'est ce que vous voyez en petit carré. Alors vous avez des marges, ce n'est pas des marges d'erreur, hein, c'est des marges de manœuvre. C'est les personnes qui sont indifférentes. En fonction de deux axes, donc l'axe sur la recherche, est-ce que je veux faire de la recherche et de l'enseignement supérieur ou est-ce que je veux faire autre chose? Et un axe sur le secteur d'exercice, est-ce que j'ai envie de travailler dans le secteur privé ou est-ce que j'ai envie de travailler dans le secteur public? Et donc ce qu'on voit, c'est voilà, cette relation qui va exister entre la représentation, le projet et le débouché effectif. Alors c'est le débouché à 1 an. Donc bien sûr, il peut y avoir un décalage par rapport au débouché à plus long terme. Mais ce qu'on voit au travers de ça, c'est qu'il y a, sauf pour quelques entreprises, un décalage entre la représentation que les docteurs ont de leur carrière et puis la réalité. La réalité de leur débouché, en tout cas, à 1 an. Et donc ça interroge justement cette question de la représentation que les docteurs se font d'eux-mêmes et de la représentation que l'emploi a des docteurs. Donc mes conclusions, ce sera donc que d'abord les docteurs développent au travers de leur doctorat et de cette expérience des compétences. Voilà, et donc là on est sur le domaine du marché de l'emploi et qu'effectivement ces compétences ont une valeur ajoutée importante sur le marché de l'emploi. Que ça leur ouvre des perspectives de carrière dans la recherche académique, mais aussi en entreprise et aussi dans d'autres secteurs. Et enfin, que la représentation qu'ils se font de leur place dans la société peut varier et varie selon beaucoup de paramètres, notamment, comme je le montrais ici, c'est vrai que je n'ai pas donné la grille de lecture par rapport à ça, c'est par rapport au domaine de recherche. Vous voyez déjà des différences assez notables sur l'image que les docteurs ont de leur rôle dans la société par la suite. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Oui, bonjour. Donc, je vais avoir la tâche difficile de remplacer Henri Audier. Donc, Henri Audier, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur tous les rapports qu'il peut trouver faits par différents organismes et qui nous fait souvent des textes de résumé. Donc là, en particulier sur le sujet du doctorat, il a fait 5 textes. Qu'on peut trouver sur son blog ou bien sur le site du SNCS, dont je vais parler le plus fidèlement possible. Et je m'excuse à l'avance si je déforme les propos de Henri Audier. Je dis ça pour lui. Jamais il voit ça. Donc, je vais passer très vite sur les deux premiers qui sont essentiellement des chiffres. Je vais aller directement sur la conclusion des deux premiers pour parler ensuite du devenir des docteurs et du doctorat comme diplôme culturellement déconsidéré par rapport à la discussion qu'on a eue tout à l'heure aussi sur la dualité école d'ingénieur université. Donc, comme vous voyez, je passe très vite et je passe très vite, on pourra y revenir. Pour juste arriver aux conclusions, en fait, pour avoir des débouchés pour les docteurs, premièrement, et aussi pour atteindre les 3% du PIB pour les dépenses de recherche, comme demandé par les objectifs de Lisbonne, il faudrait doubler le nombre de chercheurs français qui est désespérément... Pardon, de personnes qui ont eu leur doctorat en France tous les ans. Le chiffre est de 11 500 par an en moyenne, alors que l'Allemagne, par exemple, en forme 27 000 tous les ans. En décerne de 27 000 tous les ans, c'est extrêmement bas, la France est extrêmement en retard. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme possibilité? Eh bien, tous les ans, il y a des départs en retraite dans le secteur public, dans l'académie. Il y a à peu près 3500 recrutements dans le privé ou hors la recherche. Pour atteindre ces 3%, aussi, on devrait augmenter le nombre de recrutements à la fois dans le public et dans le privé. D'autre part, il se trouve qu'il y a beaucoup de chercheurs du privé qui n'ont pas de doctorat, donc ces personnes auraient pu être formées, auraient pu être des docteurs, auraient pu avoir un doctorat. Et d'autre part, on peut aussi irriguer d'autres secteurs d'activité que la recherche, par exemple la haute fonction publique, ne serait-ce que pour acculturer toutes ces personnes à la recherche scientifique. Quelques chiffres sur le devenir des docteurs qui sortent de tous ces rapports que je vous ai dit. Alors, en haut à droite, je vous ai écrit que le taux de chômage des docteurs est assez dramatique en France, 10%, alors que c'est trois fois le taux de chômage de la moyenne des pays de l'OCDE, je retrouve moi. Donc 10%, trois fois supérieur à celui des autres pays. Je vous ai mis à gauche ensuite un schéma qui donne le nombre dans la répartition des emplois des docteurs en 2000. J'ai plus la date cette fois. Je ne peux pas vous dire la date. Ça doit être entre 2009 et 2011 en tout cas. Donc devenir des docteurs trois ans après la thèse. Donc à droite, dans la partie droite, c'est le nombre de docteurs embauchés dans la recherche publique et académique. Et à gauche, c'est les autres. Donc vous avez en haut à gauche la recherche privée, 20%. Ensuite, le quart tout à fait à gauche, le secteur privé hors recherche, et tout en bas, le secteur public hors recherche. Le EDD, ça veut dire emploi à durée déterminée, donc ce sont les CDD. Donc vous voyez que typiquement, l'endroit où il y a plus de CDD, c'est dans la partie droite, dans la recherche publique et académique, 40% de CDD. Ensuite, en bas à droite, on a les résultats après 5 ans. Donc après 5 ans, après la thèse, on peut voir qu'il y a 3 quarts des personnes qui travaillent, pour ceux qui travaillent, 3 quarts des personnes qui travaillent dans la recherche, la moitié dans le public et un quart dans le privé, le reste étant hors recherche. Alors ça va à l'encontre des objectifs de Lisbonne, puisque quand on dit qu'on veut faire 3% du PIB, des dépenses du PIB consacrées à la recherche publique, on sous-entend 1% pour la recherche publique et 2% pour la recherche privée. Alors que vous voyez que là, on a plutôt un demi-public et un quart pour le privé. Alors, ce qui se passe, c'est que dans le secteur privé, le poids des docteurs dans les effectifs de chercheurs est structurellement faible, puisque les entreprises privilégient les profils d'ingénieurs plutôt que les titulaires de doctorat. Je donne le chiffre là, de 13% en 2009, 13% des personnes qui font un travail de recherche dans les entreprises sont des docteurs. D'autre part, comme je vous l'ai déjà dit, Audi emploie le mot de scandaleux bizutage, le scandaleux bizutage des jeunes docteurs dans la recherche publique, puisque pour leur premier emploi, c'est un chiffre de 2007, pour leur premier emploi, 70% des docteurs sont en CDD. À Thèse plus 3, ça c'est un chiffre de 2010, 30% des chercheurs embauchés dans la recherche publique sont encore en CDD. Alors qu'il n'y en a plus que 25% pour ceux qui ont un diplôme de master et 7% pour ceux qui ont un diplôme d'ingénieur. Et à Thèse plus 5, l'effet commence à s'estomper, il n'y en a plus que 15% qui sont en CDD. Alors ensuite, Henri Audi a travaillé le rapport du député Émeric Breillet, qu'il a présenté à l'Assemblée nationale en octobre 2013. C'est un rapport qui était un peu un préalable aux discussions qui sont en cours sur le doctorat, le futur, comment le valoriser, etc. Donc, les estimations sont assez impressionnantes. Donc, ça, c'est une estimation de la sous-direction des études statistiques du ministère qui donne qu'alors qu'on attend que les effectifs en étudiants dans l'enseignement supérieur augmentent de 8,7% entre 2012 et 2021, on s'attend à ce que le nombre de doctorants diminue de 2,1%. Et le doctorat est donc une espèce de victime, et on dit que le doctorat est une victime collatérale de cette dualité université-école d'ingénieurs. Alors, le rapport Breillet note que la France ne valorise pas le diplôme de doctorat. Pourquoi ? Alors que dans les autres pays, le doctorat et le PhD sont au sommet de l'échelle des qualifications, chez nous, ce doctorat ne constitue pas, en particulier par rapport au diplôme de management ou d'ingénieur, ne constitue pas un passeport efficace vers l'emploi pérenne. Et ce rapport prône le fait qu'il faut professionnaliser les doctorants, par exemple par des formations complémentaires. Il essaye aussi quand même de le valoriser au sens où il faudrait améliorer l'encadrement au travers d'échanges de bonnes pratiques. Il faudrait limiter le nombre de thèses par encadrant. Il cite une école doctorale où on voudrait limiter le nombre de thèses à 8. Alors que dans cette université dont il parle, certaines personnes, enfin le nombre maximum est de 15, ce qui est assez impressionnant. Le diplôme de doctorat donne un contenu qui n'est pas clair pour les entreprises. Les entreprises ne savent pas très très bien ce que c'est que ce diplôme. Par exemple, Émeric Breillet a fait des auditions et une personne lui a expliqué que certains milieux économiques considèrent la préparation d'une thèse comme une absence de prise de risque. Ce que personnellement, je trouve complètement contradictoire avec tout ce qu'on a entendu ce matin. Donc préparer une thèse correspondrait à une absence de prise de risque. Et d'autre part, par les problèmes d'acculturation, forcément, ceux qui vont recruter ou pas ces docteurs ne connaissent pas, n'ont pas eux-mêmes fait de doctorat, donc ils ne connaissent pas le système. Une des propositions aussi du rapport, c'est de normer, normer, c'est le mot qui est utilisé, normer davantage le doctorat. Donc, je ne suis pas sûre, mais je pense que ça revient à ce que vous avez proposé juste avant, c'est-à-dire rendre visibles les compétences des doctorants, augmenter la sélectivité aussi pour l'acceptation en thèse, pour montrer qu'en sélectionnant, eh bien, peut-être on va avoir les normes des écoles d'ingénieurs, c'est peut-être ça qu'ils veulent dire. Et je suis retournée aussi dans ce rapport pour revoir que l'association Bernard Grégory propose d'ajouter dans la thèse un chapitre où le doctorant, dans sa thèse, présente ses capacités professionnelles, ses compétences et son savoir-faire professionnel. Alors, il y a en fait une autre voie aussi comme débouché qui pourrait être intéressante. Ça, c'est Audier qui propose ces chiffres. Dans la fonction publique, on s'attend, avec les départs en retraite, il va y avoir les départs en retraite de un tiers des agents de catégorie A en 2014, 50% en 2018, 57% en 2020. Ça veut dire qu'il y a un vivier important. Mais ça veut dire aussi qu'il faudrait avoir des actions un peu positives pour faire en sorte que les docteurs puissent éventuellement, s'ils le souhaitent, accéder à ces fonctions de la haute fonction publique. Alors, les possibilités, c'est d'augmenter les recrutements sur titre. On pourrait aussi dispenser les docteurs de tout ou partie des épreuves d'admissibilité. Donc ça, c'est ce qui avait été proposé, c'est ce qui avait été envisagé dans les discussions, que, par exemple, un docteur puisse se présenter à l'ENA. Mais en fait, il y a des réticences des hauts fonctionnaires de laisser ouvert cette voie aux docteurs qui n'auraient pas fait de grande école. Alors, aujourd'hui, à l'envers, il y a des tentatives. Comment expliquer? Il y a deux possibilités. Ou bien on augmente le nombre de docteurs et on leur trouve des débouchés, ce qui pourrait arriver à faire comme les autres pays, pour arriver à ce que chacun puisse avoir développé l'esprit critique scientifique pour, comment dire, diffuser tous les aspects scientifiques dans la société. Donc ça, c'est une des manières de faire. L'autre manière de faire, c'est de baisser le niveau du doctorat. Et c'est par exemple ce dont on a un petit peu peur. Ce qu'on appelle des doctorats light, c'est-à-dire par exemple des doctorats qu'on a de manière beaucoup plus rapide. Par exemple, la directrice de l'ENA, elle envisage d'encourager les élèves de cette école à commencer une thèse au cours de la scolarité pour la finir par le biais de la VAE, la validation des acquis de l'expérience, par expérience. L'ENA a très très intérêt à ce que les gens s'entendent l'ENA est un doctorat, puisqu'ils savent bien que ce titre est plus prestigieux à l'étranger que simplement ancien élève de l'ENA. Pareil, donc le directeur de l'ENPC, aussi École nationale des ponts et chaussées, pense que le travail de recherche-développement d'entreprise pourrait être reconnu comme un parcours conduisant au doctorat par le biais de la VAE. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions en cours autour du nouveau doctorat, vers quoi aller, et le nœud de l'affaire, elle est ici, ou bien faire des vrais doctorats et les diffuser dans la société, ou à l'inverse, baisser ce niveau du doctorat, en faire un doctorat light pour que plus de personnes aujourd'hui dans les entreprises puissent se prévaloir de ce diplôme. Voilà, je vous remercie.
Merci. Alors, je vais me présenter rapidement et je vais essayer d'être rapide parce que je crois qu'on a encore dépassé tous les délais. Comme on n'est pas les seuls.
Pardon.
Oh, non, mais c'est pas. Je crois que c'est global. Alors, donc moi, je suis Emmanuelle Ebeljos. Je suis docteure en art. J'ai soutenu une thèse sur les esthétiques contemporaines des arts de la marionnette, pour me situer. Par la suite, j'ai créé une entreprise. Qui, il se trouve, est une entreprise qui est reliée à Adhoc Talent. Donc, je précise simplement le mode de recrutement de cette table ronde, qui n'a rien à voir avec notre lien, puisque nous nous sommes aperçus par la suite qu'on était dans la même table ronde. Voilà, j'étais donc sollicitée pour venir ici en tant que membre de l'ANDES, l'Association nationale des docteurs, que je vais simplement prendre le temps de situer parce que tout le monde ne connaît pas cette association, qui est pourtant une association fondée en 1970 et qui rassemble des docteurs de toutes les disciplines, quel que soit leur âge, leur statut professionnel, et qu'ils soient en France ou à l'étranger. Donc vraiment, nous nous adressons à tout type de docteurs ayant tout type de parcours, avec cette idée qu'en partageant finalement les expériences de carrière des uns et des autres, on puisse identifier finalement comment nourrir la réflexion sur le doctorat aujourd'hui. Alors on se donne trois missions à l'ANDES. La première, c'est tout simplement de promouvoir le doctorat. J'utiliserai pas le mot valoriser, qui induit la notion qu'il n'y aurait pas une valeur, enfin, ou en tout cas qu'il faudrait, voilà, mais que le promouvoir, c'est vraiment la façon dont on le formule nous. Donc mettre en avant finalement ce que cette formation a à la recherche par la recherche, a de spécifique qui n'est pas duplicable d'une autre manière, qui est propre au doctorat. Et puis rendre visibles les compétences des docteurs, rendre visibles au sens de les rendre visibles par tout un chacun, y compris donc les gens qui n'auraient pas suivi ce parcours. La deuxième mission qu'on se donne, c'est de mettre les talents des docteurs au service de la société. Il y a un engagement fort qui est celui de toute démarche doctorale, qui est de contribuer à l'avancement de la connaissance et à l'avancée de la société. Et l'enjeu, c'est de voir aussi comment cela se décline, quels que soient les parcours des uns et des autres. L'idée étant de décloisonner les sphères professionnelles et de voir les doctorants comme des passeurs de frontières, comme des professionnels particulièrement capables de s'hybrider et de venir enrichir les représentations et les façons de fonctionner du monde professionnel dans son ensemble. Et puis, de se confronter, de fait, aux nouveaux défis, dont je reparlerai tout à l'heure, aux nouveaux défis du monde socio-économique au sens large. Et puis, troisième mission, créer et mettre en synergie les réseaux des docteurs, c'est-à-dire augmenter la visibilité collective des docteurs et favoriser les interactions et les réseaux entre eux, puisqu'on se rend compte qu'en fait, il y a des cloisonnements qui sont disciplinaires et puis il y a des cloisonnements qui sont liés au parcours professionnel et que ces cloisonnements, finalement, appauvrissent les retours qu'on peut avoir sur ce qu'est le doctorat. Alors, je vais évoquer les questions qui me sont posées en trois points. La première, c'était finalement le docteur dans la société, société de la connaissance. Je reviens sur un retour, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui étaient au colloque du 13 et 14 avril qui s'appelait « Le doctorat, un atout pour l'avenir », organisé par le ministère et la NRT, qui a véhiculé sous certains aspects une vision finalement assez rétro de ce qu'était le doctorat, notamment en posant des questions du type « mais si on veut chercher une place pour les docteurs, pourquoi on n'imaginerait pas d'en faire des enseignants du secondaire ?» Ce qui est intéressant, mais ce qui n'est pas la vocation de la formation, qui n'est pas la vocation du titre de docteur. Du coup, ça m'interrogeait par rapport à ce qui s'était dit précédemment, c'est pour ça que je le reprécise, ce qui m'avait d'ailleurs aussi interrogé sur le fait que c'est pas parce qu'on fait des sciences dites dures ou expérimentales qu'on est scientifique, mais bon, c'est une autre question. Donc, cette chose-là avait été dite, et puis finalement que le doctorat, la seule chose qui fait qu'il faut le promouvoir aujourd'hui, c'est que ça devient une obligation pour se positionner sur le marché international pour les ingénieurs. Ce qui est intéressant parce que du coup, c'est l'injonction externe, internationale, qui va amené un questionnement sur que doit être le doctorat aujourd'hui. Alors, finalement, cette idée de l'actualité d'une société de la connaissance qui a été évoquée déjà il y a quand même pas mal d'années est devenue dans les discours et dans les langages ce qu'on a plutôt tendance aujourd'hui à qualifier comme une société de l'innovation. Et je pointe ce glissement sémantique que je trouve intéressant. On partait au départ de cette idée qu'on arrivait dans une société de la connaissance où le savoir et la connaissance intrinsèque auraient une valeur de marché. Et aujourd'hui, on est plus dans un discours qui met en avant cette idée d'une société de l'innovation, innovation qui amène cette notion de nouveau, quelque chose qui serait nouveau, nouveauté, qu'on va retrouver dans les mêmes déclinaisons sur la façon qu'on a aujourd'hui de parler de nouvelles technologies pour dire que ce qui a une valeur, c'est ce qui est nouveau et pas le contenu intrinsèque, puisque la technologie induit déjà cette notion de nouveauté ou de mise à jour régulière. En tout cas, quelle que soit la lecture entre connaissance ou innovation, quel que soit le type de langage qu'on propose, finalement, ce qu'on peut identifier, c'est le besoin de profils capables d'une adaptation continue et documentée à un terrain. Et les docteurs, finalement, sont des professionnels qui ont construit leur identité professionnelle sur l'élaboration d'une voix singulière, experte et évolutive en fonction de l'état de l'information qui leur est accessible. Voilà, donc il y a cette chose-là qui qualifie le profil du docteur, c'est de construire son identité professionnelle comme une voix singulière, experte et évolutive de l'appropriation de l'information et du savoir qui sont à sa portée. Avec plusieurs éléments de compétences qu'on va pouvoir relever, et du coup je ne reviens pas sur ces questions de compétences parce que vous êtes vraiment beaucoup allé nous montrer des éléments là-dessus et vous trouverez ça dans les enquêtes qui ont été faites sur les compétences des docteurs, mais où on va trouver la capacité de veille, la capacité de voir l'échec comme une étape d'un processus de travail, la capacité d'avoir un regard sur les transversalités, etc. Une chose qui est importante sur le positionnement de cette société de la connaissance par rapport au doctorat, c'est d'observer finalement comment se développe l'emploi scientifique. Alors vous avez évoqué les chiffres du rapport sur l'emploi scientifique de 2014. Je les complète donc simplement. Sur la recherche privée en particulier, le rapport montre une évolution assez intéressante. Il dit en gros que entre 1999 et 2011, les chiffres arrêtés en 2011, mais c'est bien le rapport de 2014. Donc entre 1999 et 2011, le nombre de chercheurs dans le secteur privé est passé de 75 000 à 150 000. Donc cette projection est pas du tout cette projection du besoin d'expertise et de représentants de la société de la connaissance n'est pas du tout anodine. Et parallèlement, on a observé une baisse du pourcentage de docteurs parmi ces chercheurs qui sont dans le privé. Donc il y a beaucoup plus de chercheurs, mais la proportion de docteurs à l'intérieur de ceux qui se qualifient comme étant chercheurs du secteur privé a baissé. Elle a baissé de 15% en 97, donc il y avait 15% de ces chercheurs du secteur privé qui étaient titulaires d'un doctorat, à 13% en 2011. Alors, c'est pas non plus de 80% à 20%, mais c'est une baisse continue et observable. Et d'ailleurs, dans les recrutements, il précise dans le rapport que dans les recrutements en tant que tels, les docteurs recrutés il y a quelques années, c'était plutôt 16%. De cette population et qu'aujourd'hui on est plutôt à 13% ou 12%, donc ça baisse encore plus quand on regarde au niveau du recrutement par la suite. Voilà, donc ça c'est les chiffres que vous retrouverez dans le rapport sur l'emploi scientifique de 2014. Ce qui m'amène au deuxième point qui m'a été souligné, c'est quelles sont finalement les difficultés rencontrées pour les carrières des docteurs. Alors je vais pointer deux choses. Il y aurait beaucoup de choses à évoquer, mais on n'a pas le temps de pointer deux choses. Il y a une chose qu'on a déjà évoquée beaucoup, c'est la question du cloisonnement entre un monde académique et un monde non académique. non académique qui regrouperait du coup le secteur privé et le secteur de la fonction publique et de la haute fonction publique. Mais comme ça a déjà été très bien évoqué par rapport aux analyses de M. Brier et de M. Audier, du coup, je ne vais pas revenir en détail dessus, mais c'est vrai que c'est une chose sur laquelle il est intéressant de se pencher. Et juste, je reviendrai dessus tout à l'heure sur les actions de l'ANDES par rapport à ça. Ce cloisonnement, il est d'autant plus fort que du coup, il y a un réflexe de repli identitaire qui se fait, qui va faire qu'on va avoir deux types de langages complètement différents et qu'on va avoir tendance à dire que quand un docteur parle, l'entrepreneur ou le recruteur ne le comprend pas parce que sa façon de s'exprimer utilise un jargon qui est celui du monde académique, qui est celui dans lequel il est inscrit, qui n'a que peu d'ouverture et que peu de comment dire d'enrichissement ou de va-et-vient d'aller-retour avec le reste avec les autres secteurs, avec la fonction publique et avec le privé. Voilà. Enfin, je vais pas approfondir là-dessus. Peut-être qu'on en rediscutera en fonction des questions qui sont les vôtres. Et puis, il y a la question de l'attractivité. Alors, par rapport à deux choses. Donc, il y a cette idée de la non-stabilité de l'emploi scientifique qui pose un vrai problème d'attractivité vers ce type d'emploi parce qu'effectivement, il y a cette représentation qui se vérifie dans un certain nombre de rapports que l'emploi scientifique implique une certaine dose d'instabilité et de contrats à durée déterminée. En tout cas, c'est l'image qui est véhiculée et qui amène à un manque d'attractivité de l'entrée en doctorat. Manque d'attractivité qui ne s'observe finalement pas tellement parce qu'on va avoir finalement à peu près le même nombre de doctorants en continu. Par contre, on a eu sur les dernières années une augmentation très 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 forte du nombre de doctorants étrangers qui sont venus s'inscrire dans les filières française, ce qui est signe de la qualité de la recherche française et de sa visibilité à l'international, mais pas forcément signe de la qualité des représentations sur la stabilité de l'emploi après l'obtention du doctorat. Voilà. Et puis pour terminer, du coup, on me demandait finalement quelles sont les évolutions possibles et quelles sont les actions de l'ANDES. Alors, nous, on observe un certain nombre d'évolutions. Déjà, concernant la fonction publique et la haute fonction publique, vous avez peut-être suivi les débats, mais il y a eu la loi du 22 juillet 2013 qui, dans son article 78, évoquait cette question de la reconnaissance du doctorat dans la haute fonction publique, et notamment dans ce fameux colloque du 13 et 14 avril 2015, Madame Vallaud-Belkacem a fait un discours en disant qu'il fallait absolument que l'État fasse acte d'exemple et qu'il intègre de manière plus forte les docteurs dans ses institutions. Cela dit, il faudrait peut-être simplement qu'ils commencent à regarder dans leur propre ministère. Si on regarde le nombre de docteurs qui sont recrutés par le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, on est assez surpris de la proportion qu'on va y retrouver. Donc il y a cette idée qu'on va faire des recrutements, des voies d'accès spécifiques dans la haute fonction publique et notamment à l'ENA, mais ça a été relativement de l'ordre de la note d'intention puisque c'est si l'ENA décide de le mettre en place. Donc à partir du moment où c'est l'ENA qui doit décider de mettre une voie d'accès, l'injonction est relativement peu forte. En réalité, sur 2014, il y a une institution de la fonction publique qui s'appelle l'IGAS qui a ouvert une voie d'accès pour les docteurs et l'école des mines a ouvert un poste pour un docteur en 2014. Voilà. Donc, bon, ça reste relativement limité, mais c'est les premières étapes et on va voir comment ça va évoluer. Donc nous, on travaille à justement faire la veille sur comment ça évolue. Ce qu'on observe aussi, c'est que tout ce qui est au niveau de la formation doctorale, les collèges des écoles doctorales réfléchissent beaucoup à la façon de faire évoluer à faire évoluer dans l'offre de formation les regards proposés sur le doctorat. Alors, on a entendu parler des doctoriales et de tout autre type de format dans ce sens. Nous, on voit vraiment ça plus comme, puisque nous voyons le doctorat comme une expérience professionnelle et que comme tout professionnel, on a droit à une formation continue en tant que jeune professionnel, on voit vraiment ces types de formations-là comme ce qu'on proposerait dans n'importe quel secteur en termes de formation continue qui va permettre à quelqu'un qui a un contrat précaire en CDD de se projeter dans les carrières possibles, quelles qu'elles soient. Et ce qu'on observe aussi, c'est la réduction des durées des thèses qui, permet d'avoir des parcours plus rapides pour que les poursuites de carrière puissent se diversifier plus vite et qu'il y ait plus de... qu'une projection plus rapide sur ces poursuites de carrière. Et puis ensuite, sur les éléments qu'on met en place... On a fait des propositions notamment pour évoquer la possibilité de penser des parcours dans le secteur académique plus hétérogène, parce que finalement le secteur académique doit aussi se regarder lui-même et se poser la question si on ne recrute que les mêmes profils et qu'on ne fait pas rentrer dans le système des gens qui ont eu un parcours hors du secteur académique, eh bien on ne vient pas nourrir et enrichir le regard que le secteur académique porte sur le secteur hors du secteur académique. Et peut-être que ce serait intéressant de recruter aussi de temps en temps des gens qui ont des parcours atypiques dans les postes de chercheurs, d'enseignants-chercheurs. Et puis, on travaille aussi beaucoup actuellement sur la question des carrières des chercheurs qui sont internationaux, qui ont fait leur parcours doctoral en France, et qui ont des problèmes d'accès au premier emploi qui sont liés à des problèmes administratifs. Donc voilà, on a travaillé notamment sur la possibilité qu'ils puissent avoir des titres de séjour adaptés, qu'ils puissent rester après le lendemain de leur soutenance de thèse, parce qu'il y avait quand même, à un moment donné, c'était très drastique, hein, le lendemain de la soutenance, leur visa expirait, il fallait absolument qu'ils quittent le pays. Donc il y a eu une réflexion là-dessus, sur permettre le temps de la recherche du premier emploi, après soutenance en tant que docteur, et puis supprimer la taxe OFI qui est liée au changement de type de séjour. Donc ça, c'est des points plus techniques, c'est pour vous donner un petit peu un aperçu des questions qui se posent, parce qu'effectivement, on a quand même 40% de doctorants qui sont d'origine internationale, et du coup, se pose aussi la question de leur carrière à eux. Voilà, j'espère ne pas avoir... Je pense que j'ai débordé à peu près de manière similaire à mes partenaires.
On va prendre des... Est-ce qu'il y a des questions ? Non, je vais... Sur la question des problèmes de visa, d'expiration de doctorat, alors, ça, je peux témoigner que... Alors, je sais pas, le problème est résolu parce que nous, on a eu le problème dans le laboratoire plusieurs fois avec... Mais cette question, du jour au lendemain, il n'y avait pas de délai après la soutenance de thèse pour la durée de validité du doctorat, du visa. Est-ce qu'il n'y a pas un cercle vicieux, finalement? Vous avez parlé de la séparation un peu entre le monde académique et le reste du marché de l'emploi. Il y a un cercle vicieux parce qu'à partir du moment où les docteurs ont du mal à se faire employer ailleurs, du coup, forcément, ça renforce en fait cette méconnaissance. Moi, j'ai vécu et travaillé aux États-Unis, et une des choses qui faisait que, justement, par exemple, quand on avait beaucoup d'anciens doctorants qui étaient employés dans des entreprises, qui étaient employés dans différents secteurs, ils gardaient des liens avec leur laboratoire d'origine. Très souvent, les liens se maintenaient pendant longtemps. Et ça crée des échanges qui étaient, à mon avis, extrêmement fructueux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas en France, quoi. Du fait, justement, de cette absence de docteurs dans d'autres univers professionnels.
Oui, je voudrais un peu insister sur cet aspect-là, parce que quand on examine ce qu'apporte un docteur en termes uniquement de compétences, je pense qu'on passe à côté d'autre chose. Enfin, moi, j'ai coutume de dire un docteur, c'est quelqu'un qui a acquis professionnellement certaines compétences, mais qui a aussi un carnet d'adresses qui n'a pas d'équivalent. Or, ça doit être considéré comme un actif à l'embauche. C'est un capital qu'il apporte. C'est la possibilité de, par les relations qu'il a pu nouer, aussi bien dans un colloque, en lisant des gens, en leur écrivant, de pouvoir travailler, faire fructifier un certain nombre d'idées, que les formations qui sont les formations aussi bien en partie de master, ou les formations d'ingénieur, ou les formations de management, ne permettent pas d'obtenir parce qu'ils forment des gens qui sont tous des semblables les uns aux autres. Donc, je crois que ça, c'est une question qu'on sous-estime beaucoup dans la valorisation, ou dans la promotion du doctorat. Il y a un deuxième aspect, c'est une question que j'ai un peu à vous poser. Est-ce que vous avez regardé en termes de compétences collectives ce que la formation professionnelle par le doctorat peut apporter, justement parce qu'ils ont interagi avec des tas d'autres acteurs, et donc ils sont, au moins pour un temps, peut-être après, peut-être qu'ils se rigidifieront, mais il y a une certaine capacité à pouvoir travailler avec d'autres, ce qui est quand même une question cruciale si on pense innovation.
Question, c'est est-ce qu'on considère que moi, ce que j'appelle le carnet d'adresse d'un doctorant, c'est un actif quand il est embauché. Ressources, c'est une manière d'une certaine façon de dire oui, d'accord, c'est bien, mais ça compte pas.
Non, pas du tout, non.
Dans quel bilan ça arrive?
Je veux dire, moi je dis ça sur le plan théorique, c'est que nous on a cette définition des compétences en tant que ressources, mais justement si c'est considéré comme une ressource par par les recruteurs ou par les auteurs, ça dépend par les deux dans le deuxième point de vue. Après, je pense qu'il faut peut-être se demander, c'est une question en fait que je me pose en vous écoutant, que je pose plutôt au consultant, mais de savoir, je pense qu'il y a deux dimensions à ce réseau. Il y a le réseau de compétences qui peut être interrogé, mais il y a aussi le réseau business. Et ça, pour une entreprise, elle ne pouvait pas être aussi intéressée par un carnet d'adresses au niveau économique. Il y a donc d'autres entreprises, d'autres relations, etc. Donc c'est une double dimension aussi à bien prendre en compte.
Merci. Je voulais revenir sur un point, c'est cette histoire de doctorat en un an ou un an et demi, parce que finalement, il y a un certain nombre de centres de formation qui veulent que leurs étudiants se retrouvent avec le titre de docteur, mais qu'ils n'aient pas à s'embêter pendant 3 ans à faire la recherche. Donc, je voulais savoir si vous sentiez la pression qui continue à grimper là-dessus, parce qu'on commence à l'entendre beaucoup. Et le deuxième point, c'est sur le fait que j'ai vécu pendant 15 ans dans des mondes industriels où la recherche était non négligeable, mais ne représentait pas non plus le cœur central du groupe industriel. Et j'ai senti chez les DRH une frayeur qui est celle de se dire, si j'embauche un doctorant dans un secteur de recherche, je sais que ce gars-là, au bout de 9-10 ans, je ne saurais pas quoi en faire, parce que s'il reste dans son optique de chercheur, moi ce que je veux, c'est qu'il parte sur le terrain, qu'il parte en gestion DRH ou autre, et il ne sera pas adapté parce qu'il est docteur. Donc du coup, ça les freine, et ils essaient d'embaucher le moins possible de docteurs, du fait d'avoir justement des doutes sur leur perspective de futur cadre dans les entreprises. Est-ce que ça a évolué ou pas ? Je ne sais pas. Dites-nous tout.
Sur la première question, la pression, elle existe du fait qu'elle est questionnée dans le décret. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une réflexion en ce moment politique sur est-ce qu'on le met en place et comment on le met en place, et voilà, qui se pose parce qu'il y a une demande de la part des grandes institutions du type l'ENA, typiquement, hein, qui commencent à se dire que oui, effectivement, à l'international, ça fait mauvais genre qu'autour de la table, il y ait 10 personnes, dont 9 docteurs et un Français. Et aussi parce que, tout simplement, du coup, la France n'est pas représentée dans certaines structures parce que pour avoir des postes de direction, le niveau doctorat est requis. Le titre de docteur est requis. Donc, les voies ne sont pas les mêmes pour accéder à ces postes en France et à l'international, sur des coopérations européennes, typiquement, on va avoir des postes comme... des postes du type Interpol, sur les éléments judiciaires par exemple internationaux, où pour avoir le poste de direction, il faut être titulaire du grade de docteur, et qu'en France on est bien incapable de trouver quelqu'un qui pourrait occuper cette fonction et qui en même temps a le titre. Donc là le problème, il est tout simplement d'injonction politique, etc. Après, nous, on est clairement, au niveau de l'ANDES, on est clairement positionné sur la promotion du doctorat comme formation par la recherche à la recherche. Et que donc, s'il n'y a pas une expérience de recherche, une pratique de recherche, à la limite, si c'est une vraie pratique de recherche, mais qui s'est fait hors du secteur académique, en lien avec le secteur académique, s'il y a vraiment une vraie pratique de recherche avec une soutenance en bonne et due forme qui montre la qualité scientifique du travail, on est prêt à réfléchir, mais il faut que cette qualité scientifique du travail puisse être validée par les instances. Voilà. Après, trouver comment. Mais en tout cas, pas juste donner le titre pour la décoration, quoi. C'est pas du tout notre perspective. Je crois que c'est pas du tout celle du CSNCS non plus, pour le coup.
À la question de Yves, là, je pense qu'il faut s'interroger aussi sur ce que va faire le docteur dans l'entreprise. Il peut rejoindre la pôle recherche. Pourquoi pas ? Et là, on peut s'interroger aussi sur le fait que le nombre de chercheurs dans le privé a augmenté, là, vous avez dit, là, de 75 000 à 150 000 entre 1999 et 2011. Ça correspond, justement, Audi a montré aussi que depuis que le crédit de recherche avait augmenté, le nombre de personnes qui faisaient de la recherche dans l'entreprise avait miraculeusement augmenté aussi. Donc, il faut vraiment aller voir ce que font les gens comme recherche dans les entreprises. Maintenant, pour ceux qui ne vont pas faire de recherche, donc j'entends que il serait sous-entendu que quelqu'un sortant d'une école d'ingénieur serait plus apte à faire de la gestion du management. C'est un peu ça que tu dis de la part du DRH qui a peur d'embaucher un chercheur, de peur qu'il ne puisse pas répondre à ça. Et là, c'est une question que je pose à partir des minutes. Est-ce qu'il y a des endroits aussi où on se pose des questions de compétences pour les diplômés des écoles d'ingénieurs? Pourquoi non?
Alors, je vais essayer de répondre à la question, à la deuxième question, et puis après voir peut-être le parallèle avec cette question des autres écoles, des autres formations plus orientées management. Par rapport à la question de l'évolution des docteurs en entreprise, on dit souvent que la recherche-développement est une porte d'entrée dans l'entreprise. Donc, ce sont les profils juniors, c'est une porte d'entrée pour les docteurs qui rentrent effectivement en R&D dans les entreprises. C'est comme ça qu'ils sont connus, etc. Et ensuite, ils ont une évolution. Cette évolution, elle est aussi assez... assez connu, et en fait, on s'aperçoit qu'il y a effectivement deux filières qui s'ouvrent à échéance exactement 10 ans, justement, c'est plutôt vers, dans ces eaux-là, entre une filière expertise, donc des gens qui vont continuer dans la recherche et poursuivre leur carrière, c'est environ 40%, et une filière management, c'est 60%. Vous avez des chiffres de Saint-Gobain qui sont assez marquants pour ça, où on voit que sont-ils devenus 111 docteurs qui sont arrivés chez Saint-Gobain 10 ans après. Et ça donne à peu près ces proportions. Et on a les mêmes dans le projet carrière. Donc il y a l'existence de cette filière expertise et management. Tous ne font pas du management après 10 ans. Ensuite, par rapport au regard d'un recruteur, au regard qu'un recruteur va porter sur cette question, un recruteur, quand il recrute quelqu'un, il cherche à minimiser le risque. Donc au moment du recrutement, effectivement, il va se dire j'ai une chance sur deux, quasiment, pour que la question se pose à horizon 10 ans. Est-ce que je sens dans cette personne le potentiel pour évoluer favorablement à cette question ou non à cette échéance? Voilà. C'est dans ces termes que se pose la question, c'est de savoir bon, est-ce que si ça se passe comme ça ou ça, on essaie de prévoir un petit peu tout. Maintenant, je vais ramener, donc ça c'est, je dirais, par rapport au ressenti ou au rôle du recruteur qui minimisait le risque. Maintenant, je vais ramener ça à un troisième chiffre qui est la mobilité des cadres. Qui est donc en début de carrière de l'ordre de 2 ans et demi, 3 ans, et qui ensuite se stabilise autour de 5 ans. Donc vous avez de toute façon, je dirais, c'est pas hypocrite, mais je veux dire, vous avez de toute façon des possibilités de mobilité qui sont usuelles et qui se jouent aussi, qui peuvent permettre de régler ces problèmes. Donc je dirais que c'est un problème c'est une question qui va se poser de toute façon et qu'on va poser, ça c'est clair, lors du recrutement, et je dirais que ce qu'on cherche à savoir, c'est bon, est-ce qu'il y a au moins une ouverture pour que si la question se pose, et peut-être avant l'échéance de 10 ans, est-ce que la personne serait ouverte à faire des choses, comment ça se passe? Et moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est 5 ans, c'est dans longtemps. Et donc voilà, pour tout le monde, pour le recruteur, pour le docteur. Et simplement après, sur les formations, la question peut-être des compétences développées en doctorat, le business, toutes ces questions-là, on ne s'arrête pas de développer ces compétences après le doctorat. C'est probablement ce que j'ai découvert le mieux. Il y a sur là pour moi un complexe de docteur qui est de se considérer qu'on doit toujours avoir un diplôme pour faire quelque chose. Donc j'ai un diplôme de docteur pour pouvoir être chercheur. Voilà. Donc je dois avoir un diplôme de chef de projet pour être chef de projet. C'est très clairement la question que je me suis posée en entretien. Voilà, je me suis lancé quand même. Et effectivement, il y a aussi tout un travail qu'on continue à faire par la suite qui permet d'évoluer à échéance 5 ou 10 ans aussi vers des postes de management si. Ça nous plaît. Et voilà. Et après, ce sont des choses qui se dessinent par rapport aux personnalités. Et voilà.
Je voulais juste renvoyer sur quelque chose qu'on évoque quand même peu, mais qui me paraît assez représentatif aussi. C'est que si on regarde du côté de la recherche publique, académique, on se rend compte que l'évolution, elle est la même. À 10 ans, on a des chercheurs qui vont beaucoup plus orienter leur activité sur du management d'équipe, de la direction d'unité, de l'encadrement de doctorants, même si, bien sûr, ils mettront toujours en avant le nombre de leurs publications, les recherches, etc., mais qui vont, du coup, développer des compétences importantes en, justement, gestion d'équipe. Et c'est tout ce dont on évoquait, dont on parlait ce matin, sur la recherche collective. C'est aussi cette capacité de la recherche à s'organiser de façon à évoluer vers, finalement, des profils professionnels qui vont être finalement pas toujours similaires. Et il y a aussi des voix de ce fameux chercheur qui s'isole pendant 7 ans pour être un hyper expert de la problématique qu'il a choisi de poursuivre, et puis des profils qui vont mettre en place une gestion d'équipe extrêmement performante avec des doctorants et des post-docs et puis des ingénieurs de recherche et des techniciens qui vont ensemble collaborer à un projet de recherche qu'ils vont mener et dont ils vont avoir la maîtrise scientifique et la maîtrise managériale aussi. Et ce qui va leur prendre du temps. Effectivement, on sait bien que ces personnes-là, à 10 ans, une grosse partie de leur temps va être consacrée à monter des projets, gérer des personnes. Voilà. Donc cette évolution-là, elle n'est pas non plus uniquement liée au secteur privé.
Alors, peut-être une dernière question. Christine, tu voulais peut-être intervenir.
Oui, juste sur cette question-là. Pourquoi cette compétence de management est implicite dans les écoles d'avenir? Pourquoi on ne l'interroge pas? Pourquoi on n'a pas besoin de la valoriser, de la mettre en avant, de la trouver comme ce passage? Je sais, je n'arrive pas bien à percevoir parce qu'elle est là, par défaut, elle est implicite.
Je pense que Barthélemy a un peu répondu à ça quand il a dit finalement, quand on sort de la recherche, on a la sensation. Enfin, on a été dans la logique que pour pouvoir faire quelque chose, il faut valider une compétence. Par un diplôme, une formation spécifique, etc. Alors que les ingénieurs sont beaucoup plus formés à dire s'il faut apprendre, s'il faut faire quelque chose, je saurais le faire et je serai d'abord junior et puis par la suite je développerai cette compétence de manière plus forte. C'est beaucoup une histoire de. Enfin, au niveau de l'ANDES, comme de la Confédération Jeunes Chercheurs avec laquelle on travaille beaucoup, la notion de dire finalement, si on envisage le doctorat comme une expérience professionnelle et qu'on l'affirme comme telle au moment de la poursuite de carrière, on se rend compte que la façon de se positionner est légèrement différente et qu'elle change de manière radicale la façon dont les compétences vont être reconnues par l'interlocuteur. Parce qu'elles sont simplement formulées un petit peu différemment.
Je voulais juste aborder peut-être un dernier point, c'était la question en fait de l'enjeu de la reconnaissance du doctorat dans les conventions collectives, d'après les échos que j'ai eus par des biais syndicaux en fait, il y a une très forte résistance du CNPF par rapport à ça, et d'autre part, on a vu, hein, on a déjà évoqué que normalement, la fonction publique devait donner l'exemple, mais que là aussi, il y a des très fortes résistances. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel, vous, par exemple, en tant qu'association, vous essayez d'agir pour...
Oui, mais c'est quelque chose qui est intéressant aussi en termes de langage. On parle beaucoup de langage aujourd'hui. Puisque finalement, ce qui se passe, c'est l'idée que dans les conventions collectives, il existe... le terme ingénieur et qu'il n'existe pas le terme docteur. Or, le terme ingénieur tel qu'il est employé dans les conventions collectives, ce n'est pas le titre d'ingénieur, c'est la fonction d'ingénieur. Ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire que peut être recruté sur une fonction d'ingénieur quelqu'un qui n'est pas ingénieur. Peut être recruté, par exemple, sur une fonction chercheur quelqu'un qui n'est pas docteur. On voit bien. C'est là qu'il y a une ambiguïté, puisque c'est le même mot. Et que du coup, il y a cette idée que le diplôme, le titre d'ingénieur est reconnu, alors que le titre de docteur ne le serait pas. Parce qu'il y a juste un glissement sémantique qui fait qu'on a l'impression que sur des postes, des fonctions ingénieurs, on est obligé de recruter quelqu'un qui a fait une école d'ingénieur. Voilà, je vais y arriver, c'est moi qui... Je ne sais pas. Et voilà, et que du coup, il y a là un hiatus. Alors, évidemment, vous allez entendre les fameuses choses qui ont été rabâchées depuis des années, parce que c'est une réflexion qui existe depuis des années, où on dit oui, il existe un secteur où le doctorat existe dans la convention collective, c'est la chimie, et regardez le niveau d'emploi des docteurs en chimie. Alors, je précise juste que dans la convention collective de chimie est mentionné le doctorat d'État. Du coup, ça n'existe plus et c'est donc pas dans la convention. Enfin, c'est pas un exemple et ça n'a pas de valeur pour voilà. Ce qui serait intéressant et ce qui nous amène nous à nous positionner par rapport à ça, c'est que inclure la réflexion sur le doctorat dans les conventions collectives, ça oblige à faire quoi ? Ça oblige à faire des accords de branche. Ça veut dire réunir toutes les branches et aller discuter avec eux sur le terrain de c'est quoi la recherche en entreprise aujourd'hui. C'est quoi la valeur que peut apporter un docteur ? Quelles sont les plus-values qui peuvent être associées au recrutement de ce type de profil ? Quels sont les types de carrières que peut mener à bien un docteur ? Et en ce sens-là, cette discussion est intéressante. Sur le fait, mais alors là, je m'exprime plus à titre personnel, sur le fait qu'au final, le mot doctorat soit dans les conventions collectives, je pense que ça n'a finalement que peu d'importance. Mais cette idée de devoir faire des vraies négociations de branche en posant la question de comment on pense la recherche dans le privé aujourd'hui, sachant qu'il y a quand même beaucoup de réflexions à avoir aussi sur le crédit impôt recherche, sur tout ça, et que c'est des questions que tout le monde n'a pas forcément envie de poser maintenant, ça risque quand même pas de se débloquer là tout de suite dans les mois qui viennent. Enfin, c'est ma sensation en tout cas. J'imagine que vous avez envie de rebondir, mais non. Je sais pas si j'ai répondu à votre question, mais enfin.
Vous avez apporté des éléments de réflexion que j'avais pas avant, donc merci beaucoup. Je ne sais pas, on va peut-être clore. Je suis un peu désolée que ça soit un peu que l'audience soit effilochée au cours du temps. On a toujours un peu ce problème-là. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que c'était très intéressant. Je voulais donc remercier. Et alors, quelqu'un que j'aurais dû la remercier hier matin ou ce matin quand il y avait plus de monde. Je voudrais vraiment remercier Véronique qui est la secrétaire du centre, secrétaire, assistante de direction, vraiment qui est la cheville ouvrière sans laquelle le centre ne pourrait pas fonctionner, qui a fait un énorme travail, qui s'agite dans tous les sens pendant ces deux journées. Voilà, donc merci beaucoup Véronique. Et puis, merci à tous. Alors on verra après pour ces questions de vidéo. Mais donc tout ce qui, sinon, c'est le contenu du colloque sera pour l'essentiel disponible sur le site du centre.